crois que l'IA, les utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la Franf, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Franf, le magazine des radios associatives du Nord de la France. Un 12e numéro consacré aux cultures urbaines dans la région, animé par Nicolas Bunier de PFM, Vivien Descamps de Radio Plus.
Et Annaëlle Delepierre de RCV.
Hip-hop, rap, tag, graph, pratique de rue, les cultures urbaines semblent se démocratiser depuis quelques années. Comment ces cultures se développent-elles dans notre région? Démocratisation rime-t-elle avec institutionnalisation? Quel a été le rôle des associations et quels sont leurs enjeux aujourd'hui? De quelle manière occupe-t-on la ville et la rue dans ces cultures?
Hip-hop, un nom, un mouvement, une culture, une histoire, c'est nouveau, non? Et pourvu que ça dure. C'est des années passées, des génies, des ânes battés, des lumières, des yeux épatés, des étrangers qui s'appellent frères. Des sentiments méchants dits gentiment ou le contraire. Des bandes de potes en bas, des bâtiments, des pas de danse sur le pas de la porte ou le palier, des pans de murs entiers graffés au fat cap, des couplets crash et cache d'escalier calcinés aux carchères vocales. DJ scratch en nos phases, compète battle les clash, culture de la gratte, on paie jamais nos places. C'est une trace, un hommage, hommage évitant le naufrage, tournant les pages de l'histoire de nos sages, un musical canot de sauvetage, culture de la marge. Influence folle, effluve de flots affluents, flou, souffrant ou frivole, franc, comprend qu'on souffle et qui vole, comprend. Culture équivoque, fait la fête en se révoltant, molle, non. S'éclate sous la crise, danse dans l'orage, culture de la rage. Culture de la paix, de l'unité, du fun, du build-up, j'en parlerai des jours, mais là je dis stop, culture hip-hop.
Voici une première définition de ce que recouvrent les cultures de rue. C'était MC Métis, dans une création originale pour ce Parlons Franf. Pour discuter avec nous de ces questions, Rania Harar, bonjour.
Salut.
Vous êtes l'ancienne coordinatrice et programmatrice de Feu, l'association Col 911. Et Martin Coulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animateur radio sur RCV depuis une vingtaine d'années, ancien membre du groupe La Fronde, ancien chargé de mission du FLO, la maison du hip-hop à Lille. Vous êtes aujourd'hui éditeur musical pour Bombay Music.
C'est cela même.
Une première question à tous les deux. En quelques mots, comment présenteriez-vous les cultures urbaines? Rania, peut-être?
Déjà le terme, hein, cultures urbaines, c'est large, ça a évolué. On peut pas dire aujourd'hui qu'on peut y prêter la même définition que celle qu'on y prêtait il y a 20 ans, par exemple, avec l'évolution des politiques publiques autour de la culture, du mouvement lui-même, de la manière dont travaillent les acteurs. Moi, j'avais l'habitude d'en parler déjà en priorité à Col 911. On préférait parler de culture hip-hop en priorité et par extension des cultures urbaines. Et cultures urbaines, ça veut dire quoi? Un peu tout, les disciplines elles-mêmes du hip-hop, le break, la danse, le rap, le DJing, la danse, j'ai déjà dit, le beatmaking, et par extension aussi, cultures urbaines, référence à un milieu, plus forcément, il y a du hip-hop en milieu rural, mais à ce moment-là, on va aborder le BMX, les traceurs, ce que le milieu urbain a produit, a autoproduit de disciplines artistiques et culturelles, et social.
Martin ?
Moi, je dirais un peu la même chose que Rania. C'est une culture urbaine. Suivant les modes et tout, on met des disciplines dedans. Je pense que la base, c'était quand même le hip-hop, où il y avait vraiment une vraie culture issue de l'urbanité. Et puis après, bon, il y avait pas mal de choses qui sont un peu collées à tout ça. Le BMX, le skate, tout ce qui est un peu tout ce qui est aussi les décors de rue qui sont pas forcément du graffiti ou issus du hip-hop, mais il y a aussi ça, des artistes de rue qui sont aussi issus de là. Enfin voilà, il y a plein de choses. Enfin, en gros, tout ce qui, c'est un peu un fourre-tout de toutes les cultures qu'on connaissait pas avant, quoi.
Okay.
Qui n'ont pas été définies avant.
Et puis faut le dire quand même qu'à la base, c'est quand même un beau terme de dossier de subvention, quoi.
On va commencer par décentraliser un peu la question et quitter la métropole lilloise, direction Maubeuge avec Nico.
Je vous emmène dans le VDS, le Val de Sambre, donc plus précisément effectivement Maubeuge. C'est le QG de secteur 7. C'est la plus grosse asso de cultures urbaines dans la région Nord-Pas-de-Calais et peut-être Picardie. On y a rencontré Stéphane Cagé, chargé de communication et de programmation pour cet asso. Vous le connaissez peut-être aussi sous le nom Stephen King, rappeur au sein du groupe Phoenix Crew.
Alors, Secteur 7, ça existe depuis 98. Bah, en fait, c'est une asso qui était à la base un collectif d'artistes, donc des danseurs, des rappeurs, des graffeurs, etc. Ils s'entraînaient dans une ville qui s'appelle Aumont. Et ils avaient un local, mais vraiment un local pas très cool. Et il était tout simplement situé dans le 7e secteur des Encombrants. Et après, il y a un slogan qui est issu de ça, c'était Secteur 7, enfin, voulait encombrer la société positivement. Quoi. Personne ne voulait de ce local, je crois que même le sol était penché, mais c'est là que beaucoup de choses ont émergé, sont sorties du rien finalement. Puis à force de pratiquer et de vouloir diffuser un peu, partager un peu leur savoir au niveau des cultures urbaines, ils sont constitués en tant qu'association. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à donner des ateliers, à créer des événements, etc. Puis aujourd'hui, on est une asso qui compte à peu près 5-6 salariés permanents. Et puis d'autres en contrat, plus de vacations, etc. sur des interventions. Le projet a évolué, puis aujourd'hui on n'est pas encore indéboulonnable, mais on est plutôt bien installé, ça va. On est une des seules asso à vivre de ça à plein temps, quoi, je pense. Donc ouais, c'est une fierté, j'espère que ça va durer, parce qu'aujourd'hui les temps sont durs. Mais on se bat, on s'est toujours battu. À la base, Secteur 7, c'est vraiment rien du tout. Des passionnés qui sont battus, qui ont eu aussi des bâtons dans les roues, qui ont eu des coups durs. Mais au final, c'est ce qui a fait un peu la force de l'asso, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. Donc on a la chance d'avoir une aglo qui nous soutient, malgré les coups durs, des baisses de subventions, mais pas seulement dans la culture, dans plein d'autres choses peut-être même plus importantes aux yeux des citoyens. Mais malgré toutes ces baisses-là, ils essayent quand même de nous faire exister, parce que je pense que les gens qui sont à la tête de l'agglo, ils ont conscience que ouais, on a besoin de ça. Après, on est dans un territoire assez compliqué où il y a beaucoup de chômage. Les commerces ici, enfin le commerce, il est difficile. Il y a beaucoup de commerces qui ferment. Enfin, donc on voit un peu la ville ou le territoire mourir à petit feu entre guillemets. Donc si on enlève ce qui reste aux gens pour se divertir, s'épanouir, ça devient compliqué. Ouais. Après nous, on est convaincu que l'action qu'on fait avec l'asso, elle est utile. On a même le retour des gens, nos adhérents, on a beaucoup d'adhérents. Juste sur l'école de lance, on a à peu près 400 adhérents. On sent que c'est utile. On a une école de lance qui est située ici au centre-ville de Maubeuge. On fait du hip-hop, mais pas seulement. On fait aussi danse du monde comme... salsa, danse africaine, raga, danse orientale. Le but premier de cette école, c'était de croiser les cultures un peu, de se servir du hip-hop, qui est notre spécialité, pour le faire découvrir à d'autres cultures, et puis aussi de permettre à ceux qui pratiquent le hip-hop de s'enrichir d'autres cultures, d'autres danses, d'autres univers. En plus, ça draine des personnes totalement différentes. Enfin, on a des cours vraiment pour les... peut accéder aux cours à partir des 4 ans. Par exemple, en danse orientale, on a des personnes qui ont plus de 60 ans, donc c'est vraiment large, quoi. On essaye de, par ce projet-là, de fédérer tout le monde, et puis aussi à travers nos événements aussi, c'est des événements qui sont ouverts à tous. Nous, notre but, c'est vraiment de démocratiser tout ça, de casser les barrières, de se dire hip-hop, quartier... on est en 2016, c'est fini. Aujourd'hui, on voit des artistes qui réussissent dans le hip-hop, qui n'ont rien à voir avec le quartier, qui n'ont pas grandi dans le quartier, mais qui ont compris quand même la culture, etc. Beaucoup en danse, il y a énormément de danseurs qui sont dans l'esprit hip-hop, qui comprennent l'esprit hip-hop, qui ont compris cet esprit qui est né du quartier, mais sans avoir jamais fréquenté de quartier. Donc il y a une vraie mixité. Enfin, il y a juste notre école de danse, les trois quarts des gens, ils ne sont pas issus de quartier. Parce que c'est vrai que nous, les membres de l'équipe, quand tu vas nous croiser... c'est vrai qu'on représente issue d'immigration, le quartier, etc. Quand les gens nous voient, ils pensent tout de suite à ça, secteur 7, quartier, Rebeu, Renoir, etc. Mais quand ils nous voient au milieu du public qu'on attire, c'est pas du tout ça. Il y a plein de gens, des élus, des politiques qui sont venus, qui ont eu le courage, entre guillemets, de venir dans nos événements, de voir. Et ils ont été surpris à chaque fois. Tu descends dans notre... En plus, on est en sous-sol, là, à l'école de danse. Ils ouvrent la porte, voilà, ils voient que des petits blancs. Mais c'est pas eux à s'attendre à voir, voilà... des Rebeux, des Renois, etc. Mais non, il y a des gens qui sont venus dans des événements, ils sont venus voir, ils disent « Mais les gars, c'est incroyable ce qui se passe ici, etc. Et » Et c'est vrai qu'à chaque fois, nous, on fait les événements, il y a une vibe, il y a un truc qui se passe qui a pas ailleurs. Ça, c'est vrai, là, sur notre dernier festival, les gens ils sont tous repartis avec la banane. On en a eu plein de messages de gens qui ne connaissaient pas, qui sont juste venus par curiosité. Et donc c'est pas le milieu, c'est pas, mais ils ont apprécié. Enfin, à chaque fois dans les événements, en tout cas, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment une réalité. C'est pas un discours, c'est une réalité. Ouais.
Vous écoutez le magazine Parlons Franc, consacré aux cultures urbaines dans le Nord-Pas-de-Calais. Nos invités, Rania Harar, ancienne coordinatrice et programmatrice de l'asso Col 911, Martin Coulon, animateur radio, activiste hip-hop, manager et éditeur. Ils sont au micro de Nico de PFM.
Alors on a entendu dans l'interview Stéphane Cagé de Secteur 7 parler des difficultés associatives. Toutes les assos culturelles sont en ce moment sujettes à des difficultés liées aux baisses de subventions. Rania, vous pouvez peut-être nous en parler parce que l'asso pour laquelle vous travaillez a dû mettre la clé sous la porte. Les assos hip-hop, ce sont de manière générale les premières sur lesquelles on tape, Rania ?
Non, je ne dirais pas que c'est les assos hip-hop, c'est l'ensemble du milieu associatif déjà qui est touché par, voilà, dans le contexte économique actuel. Et puis les associations culturelles en particulier. Bah, les assos hip-hop, oui et non. Non, parce que je donne l'exemple, par exemple, Col 911, c'était la seule structure hip-hop financée par le service culture de la région. Donc, c'était l'unique. Donc, on ne peut pas dire que voilà, les difficultés relèvent d'une sélection comme ça au niveau des subventions. Que je sache un peu de ce que je connais des structures financées par le public ici, c'est pas non plus des budgets exubérants, c'est beaucoup du micro-local, de la commune, un peu de communauté de communes. Mais voilà, le souci, selon moi, pour les assos hip-hop, les structures hip-hop, les acteurs, de manière générale, du hip-hop, c'est le modèle économique. C'est des acteurs, c'est pas moi qui vais dire le contraire, dont je pense qu'ils restent indispensables au milieu de la culture et du socio-culturel, de manière générale, mais qui sont pas, voilà, qui produisent énormément. Mais qui ne sont pas toujours armés professionnellement pour réfléchir à un modèle économique qui les rendrait indépendants des subventions publiques. Je pense que c'est un peu caractéristique de la région Nord-Pas-de-Calais. Ça a tendance à évoluer. Aujourd'hui, il y a une new school comme ça qui arrive, qui ne va pas forcément attendre une subvention pour aller faire un album, pour faire un événement, etc. Mais c'est ce qui a peut-être coûté préjudice à une structure comme Col 911 et à d'autres acteurs voilà, qui ont composé ou qui se sont fait prendre au piège de ce que j'appelle un peu de cette politique des MJC là, des années 2000, où on a appris à aller chercher de la sub, donc légitime ou pas, hein, c'est pas à moi de le dire. Mais voilà, dans un contexte comme celui-là aujourd'hui, il fallait mettre en marche le plan B. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont démunis par rapport à ça parce que c'est pas leur métier, parce qu'ils sont pas accompagnés pour ça.
Martin, sur la question des difficultés associatives.
Oui.
Vous êtes dans une société privée, hein, de
ouais.
Mais
ouais,
en même temps, j'imagine que vous avez été aussi activiste dans des associations.
Dans des assos, ouais, carrément. Mais après, je pense que ça, c'est, il n'y a pas de plus mal vu ou pas mal vu. Je pense, c'est vraiment une question de gens qui sont à la tête des assos et de comment on se bat pour aller chercher les subventions et défendre les dossiers. Après, c'est vrai qu'en ce moment, les budgets, mais que ce soit dans l'associatif, dans le social, dans plein de choses, ils sont diminués, forcément. C'est la crise. Mais après, bon, c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, comme disait Rania, il y a eu peut-être un cap qui n'a pas été franchi par les activistes du hip-hop, une structuration, un lobby, comme on dit, qui fait que ça fasse un peu de poids dans la balance pour peut-être avoir un peu plus de poids au niveau de la culture en tant que telle, quoi, au sein de la culture, le hip-hop, parce que c'est quand même une culture ou les cultures urbaines au sens plus large, qui touche la plupart des gens, en fait, la majorité même des gens. Au final,
Justement, le public, Stéphane Cagé en a parlé, il parlait d'une grande mixité dans le public touché par son association. Le Melting Pot, c'est l'une des idées à la base du hip-hop, de la culture hip-hop. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement, selon vous, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi, notamment dans les plus grandes villes, hein, des publics plus segmentés selon les différentes activités hip-hop? Donc, je prends l'exemple de public de quartier pour rappeurs de quartier ou public branché pour un spectacle de danse contemporaine hip-hop, par exemple. Rania ?
Là, pareil, j'ai envie de te répondre oui et non. Ça dépend de quoi on parle, de qui on parle. De manière générale, ça dépend de l'impulsion qui est donnée par ceux qui font. À Col 911, il y a eu une évolution dans ce sens-là, parce que l'équipe a bossé dans ce sens-là. Il y a eu, par exemple, sur la programmation du festival, à un moment donné, un virage qui a été pris pour favoriser cette mixité. On a fait de la contre-programmation. On s'en est pris plein dans la gueule par les gens du hip-hop qui traditionnellement connaissaient la prog, une prog un peu underground de Hip-Hop Days, par exemple. Mais c'est vrai que nous, ça nous a permis d'être satisfaits sur le fait qu'à un moment donné, quand on regardait certaines dates, surtout dans le rap, hein, c'était un peu le défi, hein, parce qu'à la limite, là-dedans, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus facile. Le graffiti, c'est grand public, on le voyait sur le Battle International de graffiti. Et ben voilà, quand tu par l'observation d'une part, et puis on a mis en place aussi des dispositifs qui nous ont permis d'avoir des données, de récolter des données comme ça un peu sur notre public. Donc les indicateurs, là, c'était le quartier de résidence, le quartier d'origine, la ville, la tranche d'âge aussi et le sexe, qui nous ont permis de constater qu'il y avait une évolution au niveau de la mixité des publics. Je pense que, voilà, donc encore une fois, de la volonté de l'équipe de l'association qui a travaillé dans ce sens-là, même si c'était pas facile, parce que c'était aussi un gros travail de com' et à faire auprès de notre public habituel. Et c'est aussi dû à l'évolution un peu, j'ai envie de dire, du rap un peu dans l'industrie, dans la com, développement de médias. Aujourd'hui, tu vas dans un concert de PNL demain, voilà, il n'y a pas que les Lascars du quartier. Et voilà. Et à côté de ça, j'ai envie de te dire, oui, il reste une segmentation des publics parce qu'il y a encore un peu, voilà, parce qu'il n'y a pas un rap, il y a des raps, par exemple. Bon, je parle de la musique en particulier. Et puis, qu'il y en a qui vont encore s'adresser à un certain public et un certain public qui va aimer se retrouver entre lui, enfin, il y a encore de l'entre-soi. Je pense que c'est humain, c'est normal. Après, il y a aussi ce qu'on veut faire, ce qu'on veut passer comme message de part et d'autre de ce qu'est la culture encore, de ce qu'est la culture hip-hop aujourd'hui. Il y a des évolutions au niveau politique et médiatique, certes, mais j'ai pas envie de trop tout idéaliser quand même, parce qu'il y a encore des représentations négatives qui restent assez fortes. Et c'est, voilà, c'est pas seulement des représentations au niveau des médias, mais c'est aussi de la fonction qu'on va donner aux acteurs du hip-hop. Voilà. Donc certes, tu as des mairies, tu as des conseils régionaux qui vont bosser avec des gens du hip-hop, mais pourquoi ? Nous, on se revendiquait en tant qu'acteurs de la culture, pas acteurs du social, par exemple. Donc tu vois, ça pose encore beaucoup de questions, effectivement, sur la segmentation des publics, des destinataires et des bénéficiaires des actions des structures hip-hop, par exemple.
Ah ouais, les Hip-Hop Days, hein, faut expliquer aux auditeurs, hein, c'est le festival qui était organisé par votre association Col 911. Martin, sur cette question de la mixité sociale du public, des publics hip-hop, alors
Bah, je pense que ça fait déjà bien longtemps que c'est le cas. Quand IAM vendait 1 million d'albums, ou NTM, ou il y a déjà presque 20 ans, c'était déjà le cas. Je pense que tout le monde écoutait, enfin c'était déjà du grand public. On vendait pas juste 1 million d'albums sur une niche. C'était le cas de plein de gens. Solar avant eux, même Gynéco après, Diams. Enfin, je pense que l'hip-hop, et aujourd'hui, de façon, on le voit dans les ventes chez les jeunes, mais même chez les moins jeunes, le hip-hop, c'est numéro un partout, quasiment dans les ventes, etc. Après, c'est la branche commerciale du rap, etc. Mais, et pareil pour les cours de danse. Je pense que c'est à la mode et qu'on n'a pas besoin d'être forcément d'une culture hip-hop pour écouter du rap ou pour aller danser. Du hip-hop, je pense que ça intéresse aujourd'hui tout le monde. Avant, c'était sur les activistes, comme on disait, voilà. Aujourd'hui, et quelques gens qui étaient passionnés. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Souvent, ce que je dis, il faut une personne qui a 40 ans dans son téléphone, d'un jeune jusqu'à 40 ans, en gros, il n'y a pas un téléphone où il n'y a pas dans une playlist un morceau de rap, quoi, je pense. J'ai tous les gens confondus, toute origine, toute... Ça fait partie maintenant du... C'est dans les mœurs, quoi. Y a plus... enfin, pour moi, c'est des débats, à la limite, qui ont lieu encore avec les institutions, parce qu'ils ont 30 ans de retard. Mais au niveau du public, c'est un débat qui n'a plus lieu d'être pour moi. Quoi. Les concerts, ils sont remplis plus que n'importe quel autre style de musique. Ça vend des disques, le graffiti, c'est coté. La danse, tous les chanteurs du monde dansent avec des danseurs hip-hop, enfin, quelle que soit leur musique aussi, quasiment. Donc, c'est pour ça que pour moi, tout ça, c'est installé depuis très très longtemps. C'est juste au niveau des pouvoirs publics et tout ça où on se pose encore la question, parce que ça fait peur, parce que ceci, parce que cela. Pour moi, ça, c'est encore pas des faux débats, mais je pense qu'on est un peu encore en retard là-dessus.
Débat d'arrière-garde, quoi.
Bah, un peu. Enfin, je veux dire, on est là avec notre vieille culture française, mais certains veulent nous faire croire ça. La culture française, elle est là. Et le hip-hop, il en fait aussi partie, quoi.
Le débat de la mixité dans le hip-hop, moi qui, sur la femme, intéressais davantage au développement économique, il est peut-être davantage dans l'emploi des gens qui font les filières de l'industrie du hip-hop en France. Voilà.
Avant de poursuivre, justement, restons sur la musique. Une petite pause musicale. Nico, tu nous as préparé des medleys.
Ouais, des petits medleys pour essayer de représenter la scène rap régionale. Alors forcément, il n'y a pas tout le monde. Et puis, c'est des medleys qui sont un petit peu courts, 2 minutes. Mais ça donne une petite idée de la diversité de la scène.
Dans mon département. Où dès le départ les apparences te mentent. Y'a quoi ici, je suis sûr que tu te le demandes. Tu crois que le décor ne se résume qu'en pâture. Et bâtard, j'ai pas tort, nous juger c'est pas dur. Les mêmes images, à force j'en ai marre des corons. Pourquoi tu riches et que tu kiffes sur Marley Comon.
Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins pour mieux aussi à la misère, alors rien à faire là tout est vert. Ces petits patelins pour mieux que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaud. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, comment? Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures.
Je pose mon empreinte, laisse des taches de sang sur les enceintes. Je reconnais le timbre, c'est le son des gens humbles. J'écris comme j'aurais pu peindre ma vie dingue, pas d'histoire flingue. Je viens de là où tu peux te faire braquer, pas un tox armé d'une seringue. Me branche ton bling bling, on parle ton string. Les vrais MC viennent tout péter sur le ring. Cube et ça va les poussières et les packs. Préviens le public, la qualité à se brise. Pas de l'arnaque.
You get it how you want it, ha ha. You want it, you get it how you want it, ha ha. You want it, you get it how you want it, ha ha. You want it, you get it how you want it, ha ha. You want it.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Je ne suis pas un numéro.
Mes mots ne craignent ni les frontières ni les cachots.
Je ne suis pas un numéro.
Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux.
Maître mes pensées, le même mot.
J'ai vu ce passager bloquer le trafic aérien qui empêchait les flics français de taper sur ce malien. Moi qui ai grandi sous les pistolets laser, j'ai vu Virginie paralysée au pistolet taser.
C'est plus que du rap, certains croyaient à une mode marginale, mais je t'assure c'est plus que du rap, plus que du rap. Quand les mots dépassent l'être même, ce qu'on t'apporte c'est plus que du rap, c'est plus que du rap. Certains croyaient à une mode marginale, mais je t'assure c'est plus que du rap, plus que du rap. Quand les mots dépassent l'être même, ce qu'on t'apporte c'est plus que du rap.
Parlons Franf.
C'était les...
La radio autrement. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Parlons Franf, consacrée aux cultures urbaines. Tout de suite, direction le FLO, anciennement Sécu, Centre Euro-Régional des Cultures Urbaines, genre de conservatoire de la culture hip-hop, rencontre avec Mathieu Raoult, responsable de la communication.
Donc voilà, on est ici dans la grande salle. La première chose à dire sur cette grande salle, les deux premières, c'est que d'abord le son a été...
À l'origine, c'est les rappeurs qui avaient lancé cette idée-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée qui est venue toute seule, ça a été Axiom qui l'avait soufflé à Martine Aubry. Et après, justement, il y a eu de nombreuses réunions qui ont été faites dès 2007 avec les activistes du hip-hop, que ce soit en rap, danse ou graphe, pour bien définir les contours du cahier des charges. Ça a été vraiment une création concertée.
Des concerts de rap dans des salles qui sont pensées pour le rock, on ressort avec une tête comme ça, parce que les basses, les subwoofers sont énormissimes. Et justement, donc là, ils ont fait appel à un acousticien pour justement absorber ces basses.
Il y a eu pas mal d'arguments d'institutionnalisation potentielle du hip-hop. C'est vraiment pas notre credo. Donc nous, on est là pour proposer des solutions s'ils veulent passer un palier. Mais après, c'est à l'artiste de choisir s'il veut rentrer dans un système, je dirais un circuit particulier ou pas. Encore une fois, nous, on a une mission de mise en réseau. On n'est pas là pour faire de la censure, et je pense qu'il faut maintenir cette liberté d'expression. Nous, on est là pour proposer des formations, des sessions d'information, des ateliers, des circuits d'accompagnement pour se professionnaliser et pour que l'artiste soit le mieux équipé possible, après, pour pouvoir vivre de son art. Quoi qu'il en soit, l'objectif premier du FLO, dès qu'il a été réfléchi, ça a été de répondre à un besoin des artistes.
Et donc là, on va aller au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est l'étage de la danse, avec deux studios de danse.
Il faut d'abord prendre conscience que ici, le hip-hop est inscrit dans le programme culturel et pas jeunesse et sport, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses autres municipalités. Donc ça, c'est quand même une particularité. C'est-à-dire qu'on reconnaît le hip-hop comme une forme d'art et pas comme un passe-temps pour la jeunesse.
De danse, c'est la salle où ont lieu les trainings.
Après, voilà, nous on est euro-régionaux, donc on veut pas non plus pousser que Lille. Il y a beaucoup de rappeurs, ne serait-ce qu'à Roubaix, Tourcoing. On parlait de Maubeuge tout à l'heure avec Secteur 7, même chose, c'est un gros vivier. Dunkerque est un énorme vivier. La Belgique, n'en parlons pas. Donc, encore une fois, on n'est pas là en concurrence. On est là pour justement aider à ce que de nombreuses initiatives puissent prendre vie.
Les bars. Et le sol. Alors le sol, là, c'est un sol plastique, parce que forcément, quand on est en basket...
On vient d'entendre Mathieu Raoult, responsable de la communication au FLO, le centre euro-régional des cultures urbaines à Lille. Martin, vous étiez salarié du FLO, Rania, vous avez peut-être collaboré avec eux du temps de Col 911. Quel est votre point de vue sur la structure ? Martin, d'abord, peut-être.
Oula. J'avais un devoir de réserve avant que je n'ai plus. Non, je rigole. Non, je trouve que l'outil est vraiment génial. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Là, Mathieu parlait de la salle de diffusion est vraiment un son exceptionnel. Elle a vraiment été fait pour aussi ce genre de musique qui tabasse bien. Donc là-dessus, je trouve que vraiment c'est un très très bel outil. Après, parfois, je trouve que la façon dont c'est mené, je trouve que ça colle pas à ce mouvement, en fait. Je pense que c'est une des choses, parce qu'on a tous participé à ces réunions, on parlait des réunions de mise en... de développement de cette structure, mais on y a tous participé. Au final, il n'y a vraiment rien trop qui est sorti de notre part aussi. On est aussi responsables, nous, en tant qu'acteurs du hip-hop, de ne pas s'être entendus sur... Puis bon, comme c'est nouveau aussi, il fallait aussi se projeter. Maintenant que ça existe, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans cette structure. Alors, faut laisser aussi le temps au temps. Et en même temps, on est dans un mouvement qui est quand même très réactif, qui va vite. Et bon, faut laisser du temps, mais pas trop non plus. Faut que ça bouge vite quand même. Ça serait bien, ne serait-ce que pour montrer l'exemple aussi aux autres villes, de dire voilà, on a un lieu très dynamique où il se passe plein de choses et vous pouvez y aller aussi. Ce qui créerait un bon réseau en France, qui manque aussi au hip-hop et aux cultures urbaines pour l'instant. On est beaucoup dans une construction de structures rock. Hein. On le voit avec la Ferra Rock, la Fée du Rock, enfin, comme nous, RCV par exemple, qui est une radio de la Ferra Rock. Donc il n'y a pas de Ferra Rap ou de choses comme ça, mais ce n'est pas forcément l'idée que chaque musique ait sa structure, sa salle et son système. Mais là, je trouve que c'est bien pour développer. Après, au niveau du flow... ça serait bien qu'il y ait quand même plus de budget parfois sur des structures quand même un peu innovantes. Et puis des budgets, bon, peut-être qu'en France il n'y en a plus, mais il y a l'Europe, on est quand même un centre euro-régional. C'est des choses que j'aurais bien aimé entendre au niveau de la construction des projets. Quand on dit qu'il n'y a pas de budget, ben, à un moment il faut savoir aller les chercher aussi les budgets. On parle de mécénat. Enfin voilà, je pense que le système associatif, ça fait 20 ans qu'il fonctionne ou 30 ans qu'il fonctionne pareil, sur des subventions, etc. Aujourd'hui, il y a moins de subventions, donc il faut trouver d'autres solutions pour entre guillemets ramener de l'argent pour faire fonctionner des projets. Et ça, ben, y a le côté, on va dire, entre guillemets commercial, des soirées qui marchent. Ça peut être une chose, et pas faire que ça, parce qu'on est aussi dans la culture et on n'est pas là pour faire de la rentabilité, mais aussi peut-être aller chercher, monter des projets qui feraient en sorte que ce lieu tourne à plein régime, quoi, ce qui est loin d'être le cas. On nous a dit encore qu'il y a encore moins de concerts qu'il y a eu au début. Alors que nous, tous les, enfin, la plupart, quand j'y étais, en tout cas, les trois quarts des retours, c'était qu'il n'y avait pas assez de concerts, que tout ce qui était la salle de diffusion, justement, les gens qui allaient aux soirées, qui trouvaient ça bien, mais qu'il y en avait trop peu. Donc du coup, il y a une demande, donc j'espère qu'ils répondront aussi à cette demande de ce côté-là, quoi. C'est bien de faire travailler les groupes, c'est bien aussi qu'à un moment, un lieu, il ait une, que le public puisse y venir, quoi. Pas que les activistes, quoi.
Dans le reportage, Mathieu Raoult évoque une mission de mise en réseau, de maillage associatif avec des structures implantées dans toute la région. Rania, vous qui travaillez sur le terrain, qu'en est-il vraiment ?
Qui travaille sur le terrain ? Des retours que j'en ai jusqu'à maintenant, c'est pas très satisfaisant. Après, je vais pas taper sur des quelque chose ou des équipes que je ne côtoie plus aujourd'hui. Je sais pas de quelle manière ils envisagent. D'assurer ce maillage du territoire. Je me demande si c'est vraiment leur rôle. C'était un rôle qui était tenu par Col 911 avant, avec les contraintes qu'on connaissait sur le terrain, avec les acteurs du hip-hop et d'autres acteurs aussi. Faire du maillage de territoire, c'est pas seulement aller voir les gens du hip-hop, c'est aussi y associer d'autres types de structures et d'autres types d'acteurs. Je pense aux musiques actuelles, je pense encore à tout le reste. Mon sentiment pour le moment sur cet objectif ou prétention, je ne sais pas comment dire, du flow à assurer cette mission-là, c'est qu'avec toutes les potentialités, les opportunités, les poids positifs que je vois à ce projet-là, ce que je déplore du départ, j'entends Mathieu Raoult qui évoque des réunions de concertation. Pour moi, il n'y avait pas de concertation, c'était peut-être de la consultation, mais pas de la concertation, on y était. Jusqu'aux dernières fois où moi j'ai bossé avec eux, jusqu'au retour que j'ai régulièrement jusqu'à aujourd'hui de divers acteurs du milieu hip-hop, c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème de compétence, je pense, c'est un vrai problème de communication. Est-ce que le FLO, c'est-à-dire la mairie de Lille aujourd'hui, parce que ça reste une régie municipale, c'est aujourd'hui s'adresser à ce public-là. J'en suis pas sûre. Pour en avoir fait l'expérience moi-même, j'en suis pas sûre. Et je les encourage fortement peut-être à revoir déjà leur réseau à la base et la manière dont ils s'adressent à ce réseau-là pour prétendre aller faire du maillage à niveau territorial, euro-régional.
Pour le plaisir des oreilles, un deuxième petit medley régional.
A fait ses classes sur Saint-Omer, laissé ses premières traces sur la grande place et TER, tête en l'air. Et parfois bien à l'envers, j'ai pris plus d'un revers. Et si je peux, je me vengerai sévère, j'ai les nerfs. Quand je vois le salaire de ma mère, l'état de santé de mon père et les galères que ça génère. Famille ouvrière, sans ingénieur ni commissaire, soudée et solidaire, même pour les plus solitaires. On a cœur bien faire, la rancœur je digère. La fierté de mes proches me fait office de somnifère. Tellement méfiant, j'aurais pu être un bon gangster. Ni dieu ni maître, issu du milieu prolétaire. J'emmerde le patronat, les politiques et militaires. Les ratonnades et les sales gars qui kiffent Hitler.
Yo, ouais, c'est du rap. Quand je prends le mic, je te casse ta vision erronée d'une musique qui part en strike. C'est du rap, quand je braque les spots sur les plus démunis. On fait des S en détresse, regarde on est plus. C'est du rap, quand je râle et je te bouscule. Quand j'étale ma rage sur les pages en majuscule. C'est du rap, quand je dis tout haut ce que tu penses pas. C'est du rap dans ta sono quand tu danses pas.
Je suis pas de ces rappeurs que les jeunes ont idolâtre. Fuck leur sins, illuminati, le prix de 2 dollars. Et moi je fais bande à part, parle d'amour et d'humanisme. Mais tu sais bien, ils veulent de la poudre et des calibres.
Y'a pas plus gradure, j'ai écrit sur Black Bay, donc y'a pas de rature. À Roubaix, c'est bizarre, dans l'époque y'a pas jardin, mais ça pue la verdure. On s'en bat les couilles, on s'en bat les coups. Comme Tony, t'es rappeur, on est dans la boue. Allez écouter, ils ont ravalé, mais je suis sûr qu'ils sont pas tirés en coup partout.
Rendez-vous à l'arrêt du bus à minuit ce soir. Eh bien j'y étais vers minuit, et j'y étais à 1h, et j'y étais encore à 2h. As-tu une petite idée du nombre de bars que j'ai parcouru?
Va prendre le bus, rejoindre tous ces clowns. J'ai un truc de plus, et le meilleur goût. J'en entends qui gloussent, qui sont dans le gouffre. Plouf, j'ai remis ma blouse, le docteur est fou.
Et les meufs dans le RAP. Le hip-hop c'est pas rose pour les demoiselles qui posent. Est-ce que le hip-hop est un milieu macho? C'est la première ligne de chaque interview de chaque femme qui rappe, pop, graph, scratch, break, lock, beatbox. Pourquoi? Pourquoi? Autrement dit, comment les talibans lieusards vous laissent sortir de votre burqa? Comme si ça existait, un milieu qui n'est pas macho. Il n'y a pas plus de sexisme dans le rap qu'ailleurs. Dans les quartiers, chez les pauvres ou chez les bronzés, d'ailleurs. Oui, c'est rare les rappeuses, les graffeuses, les DJettes, les big girls, les beatboxeuses. Mais si le problème était plus grave, le chemin plus long. T'en connais beaucoup des batteuses, des bassistes meufs, des ingénieuses du son, des programmatrices, des directrices de SMAC, des chefs d'orchestre symphonique, des femmes à des postes qui claquent. Non. Mais bien sûr, c'est de la faute du hip-hop. Encore et encore. De la faute du rap, violent et machiste. Le système fait de la merde, c'est de la faute des artistes. Société sexiste. Le hip-hop n'y échappe pas. Y a pas plus de bikini dans les clips de rap que dans tes pubs claquées, mais toi t'en parles pas. Et balaie devant chez toi. Nos big girls font le travail, on est des soutiens de poids. Nos big girls font le travail. Elles aboliront nos privilèges et feront sauter le patriarcat. Nous, on dansera. Quand y aura la parité au pouvoir, y aura la parité dans le peurat.
Parlons Franf.
Le magazine mensuel de la Franf.
La Fédération des radios associatives du Nord de la France.
La question du machisme dans la culture hip-hop posée par MC Métis pour le magazine Parlons Franf. Un mot rapidement du machisme en hip-hop, pas plus présent qu'ailleurs donc, Rania.
Tu vois, c'est ça la force du rap, j'ai rien à ajouter à ce que Métis a dit. Je plus sois à 100% ce qu'il dit, avec cette réserve cependant que pas plus qu'ailleurs. Mais donc pas plus qu'ailleurs, on retrouve certains activistes en soutien quand il y a une meuf dans ce milieu-là.
Martin ?
Bah oui, c'est une discussion que j'ai eue pas mal avec Métis d'ailleurs, parlant de ça, mais c'est vrai que... Enfin, je veux dire, je pense que c'est le milieu de la musique peut-être qui veut ça, tout simplement. Non, c'est un milieu qui est un peu différent. Enfin, je parle de... Non, mais qui est moins de meufs dans le rap ou dans la musique en général, quoi. Il y a moins de... d'adolescentes qui s'enferment dans des garages, qui se bourrent la gueule à la bière peut-être et qui restent adolescentes jusqu'à 45 ans. Ce qui est peut-être moins le cas dans la musique. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qui explique ceci, qui explique cela. Après, le machisme il existe partout, hélas. Et puis, mais dans le rap, il y a toujours eu des super rappeuses, danseuses, graffeuses peut-être un peu moins, mais il y en a aussi. Il y en a d'ailleurs dans la région aussi qui ont été très connues et qui sont très connues. Donc il n'y a pas de... Je pense qu'après, c'est oui, peut-être le milieu qui est... Enfin, de la musique, je parle en général. Dans le métal, il n'y a pas non plus dans l'électro des DJ, DJettes, entre guillemets, d'électro. Il y en a beaucoup moins. Enfin, je pense que c'est, comme je dis, des côtés d'adolescents attardés... voilà, peut-être les femmes, au bout de 25 ans, elles disent « Bon, moi, la musique, c'est bon, j'ai essayé, je passe à autre chose. » voilà, peut-être les mecs un peu moins, mais bon, ça, mais voilà, c'est des choses... je pense pas qu'il y ait plus, en tout cas.
Je parle à peine trois mots de berbère, je vais rarement l'été au bled, mais j'oublie pas que ma mère n'est pas née ici. Histoire partielle, archive bloquée en matière de travail forcé, d'esclavage, la colonisation, ces massacres, sont ces chapitres au programme.
À te sentir isolé, hors d'usage, non, t'es pas tout seul. À te sentir lourd et négligeable, non, t'es pas tout seul. L'enfer, c'est pas les autres, c'est sentir tout seul. Mais connaître la chaleur du groupe, non, ça te sentir isolé, hors d'usage, non, t'es pas tout seul. À te sentir lourd et négligeable, non, t'es pas tout seul. L'enfer, c'est pas les autres, c'est sentir tout seul. Mais connaître la chaleur du groupe, non, ça se fait pas tout seul.
J'ai gravé ma voix, libre de droit dans une restitution. Moi l'anonyme, insignifiant une voix parmi tant d'autres, qui pense en assonance, qui s'approprie les mots, une manière d'exister. C'est comme ça que je le conçois, moi et les autres, histoire d'avancer. Mais qu'est-ce tu feras quand il restera plus rien? À peine une rime, ma voix s'imprime pour se faire entendre, pour poser l'empreinte. Regarde-nous bien, juste pour dire on existe.
Fais de la place à des passionnés qui laissent de glace toute l'assemblée. Dépasse les nazes et terrasse l'état. Ceux qui jasent, on va les désarçonner.
Avec de la classe ovationnée, par la foule et la masse impressionnée. Fais gaffe à la casse et le taf à la basse. Et de graver le blast de cartonné.
Y'en a peu qui maîtrisent,
croyez-moi.
Y'en a peu qui méditent,
venez voir.
Y'en a peu qui méditent et méritent le titre de pitre dans cette histoire.
Y'en a peu qui déboîtent,
croyez-moi.
Trop qui débarquent
de nulle part.
Trop de vendus de vos produits en boîte et qui polluent les bacs tous les mois.
Travail de MC,
non, travail d'extraterrestre.
On terrasse les séquelles, ces caves sorties d'une phrase épaisse.
Travail d'élève,
non, travail de maître.
Tu ne maîtrises pas l'histoire de l'art et l'art de l'être.
Une vie à courir après ce que nos yeux espèrent. Et puis au croisement de la lumière, un jour on se réveille, on est père. Et je n'ai plus rien à faire dans des batailles sans nom. La mauvaise place, le mauvais geste, et puis s'en vont. Amour obsessionnel, matin, midi, soir. Histoire d'une réussite, j'en oublie mille qui foirent, mille mésententes et déboires, autant d'idées noires qu'enfantent le système et la folie de son territoire.
Vous êtes toujours dans le magazine Parlons Franf, où l'on discute cultures urbaines. Les cultures urbaines renvoient souvent à des pratiques artistiques, mais quid de la pratique sportive ? Vivien nous en dit plus.
Alors oui, moi je vous emmène direction Expérience Urbaine, une salle de sport qui enseigne la pratique du parcours, du MMA et de la slackline. Rencontre avec Julien De Wolf, gérant de la structure installée à Villeneuve-d'Ascq.
Alors Expérience Urbaine, c'est une structure qui est née il y a 2 ans maintenant. Et nous, on est spécialisé dans tout ce qui est encadrement et mise à disposition d'installations spécifiques aux activités dites émergentes ou urbaines. Slackline, jumpline, parcours et une salle MMA, donc les arts martiaux mixtes. Si on prend l'entièreté de la salle, on est sur du... les cours commencent à 6 ans ici, donc ça va du 6 ans à 47 ans. Mais la grande majorité des traceurs, donc les pratiquants de parcours, on est plus sur une petite vingtaine d'années.
Alors est-ce que l'on peut dire désormais que les cultures urbaines ne sont plus seulement présentes dans la rue, mais bel et bien dans un cadre ?
Alors en fait, elles sont présentes dans les deux. Pour prendre l'exemple du parcours, c'est une activité qui a été remise au goût du jour, qui existe depuis tout le temps. On a toujours couru, sauté et ainsi de suite. Ça a été remis au goût du jour par David Bell. Ça s'est développé partout sauf chez nous, réellement. C'est-à-dire dans lequel il y a eu un cadre où on a construit des parcours parcs, par exemple extérieur ou intérieur. C'est-à-dire vraiment prévu pour ces pratiques-là. Nous en France, on est au tout début de cette logique-là. Donc en gros, les cultures urbaines maintenant, c'est du indoor comme du outdoor. Nous, on est éducateur ici de métier. C'est le côté de permettre à un public qui souvent subit son environnement. Maintenant, ça devient un outil, c'est un terrain de jeu en fait. La seule chose, c'est de savoir le faire intelligemment. C'est la vie en collectivité. Les activités urbaines, moi j'aime bien la définition de l'urbanité. L'urbanité, c'est la politesse en société. Voilà, ben c'est ça, faire des activités urbaines, c'est apprendre à gérer son environnement, mais c'est apprendre à vivre avec tout le monde aussi. On vit tous au même endroit, mais on le pratique différemment. Voilà, c'est un peu notre conscience chez nous. Où on a une idée toute faite de la télévision ou de YouTube qui nous donne juste un élément à un moment donné, à un instant T, de quelqu'un qui fait un truc incroyable. Il faut savoir que les gens qui pratiquent ces activités-là, que ce soit le MMA, la jumpline, le parcours, tout ce qui est né dans la rue, ce sont des sportifs de très très haut niveau. Pour revenir sur l'intérieur, par exemple, c'est moyen de travailler en sécurité et après de pouvoir réexploiter ça dans son environnement extérieur. Où nous, on intervient dans le sens où on vient donner un point de vue. Donc c'est un savoir-faire et un savoir-être qu'on transmet à d'autres générations ou à des pratiquants qui sont même très bons mais qui n'ont pas cette conscience du vivre ensemble en fait, forcément. Maintenant, tous les traceurs, la fédération de parcours travaillent essentiellement à ça, c'est-à-dire à essayer d'expliquer aux institutions, aux collectivités que ce qu'on fait c'est un savoir éducatif. Voilà, on transmet vraiment une éducation, mais on le transmet d'une façon différente, effectivement. On transmet... à notre point de vue, en 2.0, voilà. C'est comme le 56K et la DSL. On est sur ce niveau-là, nous. On est sur une autre génération d'activités sportives. Enfin, voilà, il y a une différence entre se mettre en danger et faire une prise de risque. La prise de risque est calculée, la mise en danger ne l'est pas. La prise de risque, c'est quelque chose qui est réellement calculé. C'est-à-dire, vous savez que vous pouvez le faire. Il y a 98% de chances que vous y arrivez sans problème. On a travaillé pour ça, mais toujours... en étant sécurisé, voilà, on améliore nos techniques, on améliore nos savoir-faire. C'est ça une des particularités de nos activités que les gens ne voient pas. Les gens voient une image à un instant T, voilà, qui n'a rien à voir avec réellement tout ce qu'on a fait avant pour arriver à faire quelque chose. C'est éclectique. Ici, on rencontre toute religion, toute couleur, toute. Voilà, pour moi, c'est un exemple de laïcité. Voilà, de savoir vivre ensemble. C'est ça, les activités urbaines, réellement. C'est un vrai savoir vivre. Un des principes que j'aime beaucoup en parcours et qu'on essaye d'inculquer à tout le monde, et c'est valable dans toutes les activités qu'on donne, c'est vraiment typique des activités urbaines. Vous pouvez pas vous arrêter à un moment donné en me disant oh, c'est trop dur. Voilà, ce côté de tu travailles, tu vas y arriver. Il n'y a pas de limite. La seule limite à la réussite, c'est les gens. Enfin, voilà, et nous, on pousse les gens à dire voilà, vous êtes tous capables ici de tout faire. Tout le monde arrive à tout, il n'y a pas de limite. On a des gens qui ont 45 ans ici, qu'on a fait monter à des murs à 2,50 m. Ça a peut-être demandé 3 semaines, mais au bout de 3 semaines, ils l'ont tous fait. Il n'y a pas de limite là-dessus, c'est vraiment éducatif. On a une phrase chez nous de Einstein qu'on aime bien, on recopie hein, ce qui a déjà été bien fait, qui dit que la connaissance, c'est bien, mais l'expérience, c'est beaucoup mieux.
Alors, Expérience Urbaine, c'est une salle qui est consacrée à la pratique du parcours et de bien d'autres sports urbains. Deux questions que j'aurais aimé vous poser. Alors, tout d'abord, sur ce qu'a pu soulever Julien De Wolf. Rania, est-ce que vous pensez vraiment que les cultures urbaines sont véritablement montrées du doigt par les médias traditionnels ?
T'as vu le traitement de l'affaire, c'était en avril 2014, Korov, il est rentré dans la boutique de Booba, ça a fait la une quand même. C'est dingue quand même. Pourquoi on va pas parler du hip-hop autrement quand il apporte aussi de belles choses? Je trouve qu'il y a des sujets manquants dans les médias de masse sur des initiatives énormes qui sont prises et qui sont pas forcément mises en valeur de la même manière qu'elles le seraient dans d'autres domaines de la culture. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un problème en termes de représentation du hip-hop, et je pense que c'est plus via le rap. Dans les médias de masse, oui, mais comme on l'a aussi sur les minorités, parce que forcément c'est lié, c'est tout à fait normal. Donc voilà, je ne vais pas idéaliser le truc parce qu'on n'en est pas encore là et il y a un énorme travail à faire. Mais voilà, mais je crois que c'est très français aussi. Voilà, parce qu'à ce moment-là, moi j'étais à New York et je peux te dire que l'info n'a pas été traitée, elle n'a pas été reçue par la communauté française exactement de la même manière. Maintenant, voilà, il ne faut pas voir le tableau tout noir non plus. Je pense que c'est le rôle de médias comme le vôtre aussi, bah justement, de faire la lumière. Et là, en plus, c'était un bon exemple, une belle illustration. Moi, j'aime assez, là, un peu ce qui se passe autour des traceurs. Et puis, voilà, on voit dans le reportage tout l'aspect positif qu'il y a. Maintenant, c'est... Les médias, ils ont ce rôle aussi de diffusion, un truc qui se fera connaître parce que les journalistes feront l'effort d'aller le fouiller un peu plus que parce que ce que eux veulent bien en dire ou en voir.
Parce que justement, une des remarques qu'a pu me faire Julien De Wolf, donc gérant de cette structure, c'était le fait que les institutions voyaient cette pratique se faire dans la rue et avaient peur pour leurs habitants. Ils avaient peur aussi bien pour les pratiquants, donc pour les traceurs, que pour les habitants.
On peut comprendre que du côté de l'institution, donc on va dire de la collectivité qui a amené à gérer les équipements de biens publics, il puisse y avoir des interrogations. Bah, ça passe par la communication, le dialogue. Il fallait peut-être aller rencontrer les mecs avant de mettre des stops. Ça peut se comprendre, ça se gère. Maintenant, je pense que... Enfin, voilà, quand on écoute Julien parler dans le reportage, il a dit trois fois le mot « savoir ». Il a parlé d'éducation, il a parlé d'éducatif, il a parlé de mixité en termes d'âge. Les mecs savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si c'est plus dangereux pour les gens de faire ça que des trous énormes dans la voirie qui seront jamais, ou des quartiers que je connais où il n'y a pas de lumière le soir et où les gens se blessent. Bon, voilà, deux poids deux mesures, toujours.
Alors Martin, nous avons pris l'exemple du parcours. Peut-on dire que cette nouvelle approche, qui serait entre guillemets encadrée, permet de redéfinir un petit peu le rapport que l'on entretient avec la ville, comment on perçoit son espace urbain moderne?
Ouais, moi je pense que c'est des très bonnes initiatives. Déjà c'est sportif, c'est collectif, il y a des échanges, voilà, justement de mixité, de comme il disait, au niveau de son club. Et puis ça permet aussi de découvrir peut-être la ville sous d'autres aspects, d'appréhender son environnement aussi. Et puis bon, tout ça dans le respect de l'autre, et surtout qu'en ville, on est souvent les uns sur les autres. Donc c'est vachement important d'avoir ce respect-là aussi de son voisin, de son voisin dans le métro, de tout ça, quoi, de personnes qui sont en voiture. Donc je pense que tout ça, c'est important qu'il y ait des associations qui travaillent là-dessus, ouais, carrément.
Est-ce que ce serait pas justement pour... faire en sorte que la nouvelle génération, puisque là, la pratique du parcours se faisait avec entre 6 et 15 ans, donc classé selon les âges, est-ce que justement, ça ne prépare pas une nouvelle génération ?
Comme les pratiques sportives ont cette capacité de le faire, ouais, bien sûr, tout ce qui est, il a parlé de savoir-être, tout ce qui est l'esprit de bonne compétition dans certains sports dits urbains, bah, on le retrouve dans le parcours. Et puis il y a une pertinence en plus, c'est super hip-hop en fait leur truc, on le classe dans les cultures urbaines. Pourquoi ? Parce que ils ont su prendre un élément de leur environnement quotidien. Ils parlaient d'urbanité au sens large du terme. J'ai envie de te dire, les publicistes, en créant le mobilier urbain, en prenant les support de l'environnement urbain pour faire la publicité, c'est l'idée qu'ils ont eue. Bon, là, on a des gens des quartiers qui créent une nouvelle discipline à partir de ce qu'ils avaient à la portée de main. Et je dis que c'est hip-hop parce que le hip-hop, quand cette culture s'est créée, elle s'est créée à partir de nous, on n'a rien, on va créer notre propre culture à partir de nos propres acquis. Donc, cette mixité de culture qui existait à l'époque, mais aussi à partir, voilà, le graffiti, il est né comme ça, à partir de ce qu'on avait ici en ville, notre environnement urbain. Le parcours, c'est ni plus ni moins ça, et je trouve qu'à cet effet c'est vraiment très pertinent, et il y a l'esprit qui va avec. Peut-être que certaines autres disciplines du hip-hop ont perdu aujourd'hui.
En guise de conclusion, vraiment très rapidement, Martin, est-ce que vous avez des projets en cours en lien avec la culture hip-hop?
Aujourd'hui, oui, toujours. Hein, je continue mon émission sur RCV, tous les mercredis soirs avec DJ Asphalt. Et puis après, je travaille avec des groupes de la région, alors pas que dans le hip-hop, pour le coup, sur ma maison d'édition. C'est assez large, mais toujours avec des groupes qui font du rap, ouais, ouais, toujours.
Et Rania, rapidement ?
Toujours, je m'emploie déjà bénévolement à remplir les engagements que j'avais auprès de certaines structures locales avec, avec à l'époque de Call 911, donc notamment sur la Rajoie, au Sénégal, et l'intérêt aujourd'hui sur le hip-hop au niveau international.
Merci beaucoup à vous deux, Rania Harar, ex-coordinatrice et programmatrice de Call 911, Martin Coulon, animateur radio sur RCV de l'émission Midnight Marauders, manager et éditeur au sein de Boombi Music.
Grand merci aussi à MC Métis pour ses interventions écrites et enregistrées spécialement pour ce magazine. Dans les medley musicaux, vous aurez peut-être reconnu tour à tour le Phoenix Crew, Camini, Pépite, le MAP et Axiom, Virus, Paula Farg, Arôme de la Spirale, Gradure et Monsieur Pourcentage, Mi alias Myriam, Tacite, Percée de Teroro, Metapushka, La Jonction ou encore Cosmos et Mr. Hogs. Il y en a vraiment plein d'autres qu'on aurait pu passer dans cette émission.
Merci aux animateurs, à la réalisation de ce numéro 12 de Parlons France, Nicolas Bunier de PFM, Vivien Descamps de Radio Plus.
Et à la présentation, Annaël Delepierre de RCV, et à la technique et à la coordination, Elisabeth Hank.
Le prochain numéro de Parlons France, diffusé début mars, sera consacré à la question de l'avenir portuaire autour de la problématique Boulogne-Calais-Dunkerque. Quel avenir pour la façade maritime ? D'ici là, portez-vous bien.